Terre au Carré. Bah, je m'appelle Muriel et je vis en Dordogne et je voulais vous annoncer la création d'une toute nouvelle association qui s'appelle SOS Forêt Dordogne. Bah, voilà, on a créé cet asso parce qu'on est vraiment catastrophés de voir nos forêts de feuillus rasées et peu à peu remplacées par des forêts de résineux. Bah, on trouve que ces plantations sont vraiment un contresens écologique au moment où on parle de la sauvegarde de la biodiversité et du réchauffement climatique. Merci pour vos émissions. Au revoir.
Bonjour, Jérôme. Petite anecdote personnelle concernant des missions avec les gens du voyage. En fait, j'ai gardé un très bon souvenir de vacances. Je partais avec une amie du côté de La Rochelle, arrivé tard et ne trouvant pas de camping et apercevant des caravanes, je lui ai dit, après tout, un camping en vaut un autre, allons-y. Et en fin de compte, si tu rentrais, on se rend compte qu'on était sur une aire avec des gens du voyage, il était tard le soir, la nuit. Puis en fin de compte, sans doute intrigué, deux personnes sont venues avec une lampe de poche, ils nous ont laissé comme ça, on a passé une très bonne nuit, se sentant bien accueillis en sécurité avec eux, et le lendemain, nous sommes partis en nous faisant signe au revoir. Très beau souvenir.
Oui, bonjour, je m'appelle Émilie, j'habite à Bourges, dans le centre de la France, dans le département du Cher, j'ai 33 ans, et j'ai toujours été sensible à la beauté de la planète, et j'ai été assez militante. Je suis très pessimiste sur l'intérêt de notre espèce sur cette planète et je voudrais savoir si des sociologues savent estimer la vie de nos 7 milliards d'humains sur cette question. J'aimerais un peu savoir s'il est possible de faire une émission sur ce sujet-là. Voilà, merci.
Bonjour Alain Lucandjoua dans la Drôme. Ces derniers temps, on a de nouveau été agressé par ces nuisances sonores de ces avions militaires à basse altitude qui passent et repassent. On se demande bien à quoi ça sert. Je précise que j'habite juste à côté de Fernand de Roussaigne, audio-naturaliste, dont vous passez certains enregistrements en fin d'émission. Je sais personnellement qu'il est souvent agacé et bien embêté de faire ces enregistrements dans la mesure où il y a ces nuisances sonores, etc. Merci, au revoir.
Alexandre de La Rochelle. Nous avons créé il y a 18 mois une association qui s'appelle Aux Arbres Citoyens, qui organise des cueillettes solidaires et anti-gaspi qui ne comptent pas pour des prunes. Le principe est simple. Nous allons cueillir chez les particuliers dont les arbres donnent trop de fruits, afin d'éviter le gaspillage de ces fruits locaux et de saison. La cueillette est ensuite partagée entre le propriétaire, les cueilleurs bénévoles et le reste, environ 80%, est donnée à des associations sociales de type banque alimentaire ou épicerie solidaire. Nous sommes à la recherche de personnes intéressées pour organiser des cueillettes solidaires autour de chez eux, un peu partout en France. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet au-arbre-citoyen.org. À bientôt.
Bonjour, Mathieu de l'Aveyron. Je vous appelle pour vous demander, parce que je suis un peu étonné, j'en entends pas parler à la Terre au Carré, d'un mouvement qui s'appelle Secret Toxique et qui se bat pour que la France applique les directives européennes concernant les pesticides. Au revoir.
Le répondeur de la Terre au Carré, 01 56 40 45 45.
Alors que le Congrès mondial de la nature se poursuit à Marseille et que la question de la préservation des océans est au cœur des enjeux, la Méditerranée fait figure de laboratoire pour les scientifiques qui étudient les espèces menacées et les espaces naturels. La Méditerranée est l'un des points chauds de la biodiversité mondiale avec justement une biodiversité riche mais aussi menacée et certaines atteintes sont particulièrement nocives pour la vie marine. Comment les réduire, protéger les espèces, maintenir les équilibres? C'est l'objet de notre Terre au Carré cet après-midi avec mes deux invités, le biologiste Alexandre Ménez avec moi en studio, bonjour.
Bonjour.
Et Sandrine Ruiton, enseignante et chercheuse qui se trouve à Marseille, bonjour.
Bonjour.
Alexandre Ménez, vous publiez chez Odile Jacob « Protéger la biodiversité marine ». On va se retrouver donc dans un instant avec les questions, les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr, les réseaux sociaux également et l'application France Inter sur laquelle vous pouvez réagir et nous laisser, vous le savez depuis la rentrée, vos notes vocales. Et puis on retrouve Camille Cronier qui est toujours au congrès de l'UICN. Bonjour Camille, ça va bien ?
Oui, ça va. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Et je vous emmène aujourd'hui, Mathieu, vous l'attendez, je sais, dans le parc national des Calanques avec la police de l'environnement qui veille à ce que faune, flore et humain soit tranquille et préservé.
Et ce sera 14h30 dans Camille Passe au Vert. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestara et préparée par Anna Massardier avec Leonardo Cannes pour les réseaux sociaux et Louis Audebert à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Voilà, petite ambiance des Calanques de Marseille, justement, où nous emmènera Camille. Dans quelques minutes, Alexandre Ménez, vous qui êtes biologiste marin, professeur émérite à l'Université de la Côte d'Azur, et donc auteur de Protéger la biodiversité marine chez Odile Jacob. Vous avez réalisé combien de plongées exactement en Méditerranée au cours de votre carrière? Vous avez compté ou pas?
Je n'ai pas compté exactement, mais c'est certainement plusieurs milliers. Voilà.
La Méditerranée, mais pas seulement d'ailleurs. Hein.
Non, pas seulement. J'ai plongé dans le Pacifique, Mer Rouge, Golfe Persique, les Caraïbes, ouais. Un peu toutes les mers tropicales parce que j'étais spécialisé sur des algues d'eau chaude.
Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait la singularité de la mer Méditerranée par rapport à toutes les autres mers que vous avez connues?
Alors d'abord, il n'y a pas de marée, premièrement. Deuxièmement, cela descend très vite le long du littoral, donc la zone riche est très exiguë.
Et très importante, on le verra avec vous. Hein.
Absolument, absolument, puisque c'est la biodiversité qui est la plus attaquée par l'homme. C'est devant là où l'homme s'installe.
Ouais.
Et ensuite, disons qu'il y a une bonne biodiversité très importante, due au fait peut-être de la température de l'eau. 13 degrés l'hiver, ouais. De la surface jusqu'au fond, et l'été, ça s'échauffe un peu dans la partie superficielle.
Ouais. Pourquoi est-ce que vous êtes à contre-courant en affirmant, je vous cite, que non, la Méditerranée n'est pas morte?
Bon, d'abord, tous les messages concernant ce thème-là viennent de personnes qui ne sont pas des scientifiques, pas des spécialistes. Bon, il y a un peu de tout, hein, des navigateurs, des photographes, des cinéastes, mais ce sont pas des spécialistes. Et dans toutes mes expériences dans la Méditerranée, et tous mes collègues aussi sont d'accord, la Méditerranée est loin d'être morte. Mmh. Elle va changer petit à petit, à cause des changements climatiques et des introductions d'espèces, mais elle n'est pas morte. Il y a des espèces en déclin, localement, mais il n'y a pas d'espèce qui a disparu depuis plusieurs dizaines d'années.
Mais ça veut dire que on s'alarme à tort, on répand des fausses rumeurs dramatiques, culpabilisantes pour rien?
Pas pour rien, parce que lorsqu'on culpabilise, lorsqu'on émet des avis catastrophistes, on attire un peu le public et ça sensibilise beaucoup de public, parfois à juste titre. Mais disons qu'il faut temps en temps remettre la réalité.
Sandrine Ruiton, vous qui êtes enseignante, chercheuse à l'université Aix-Marseille, vous faites vos recherches donc à l'Institut Méditerranéen d'Océanologie. Est-ce que vous partagez cette remarque d'Alexandre Ménez sur le constat qui serait trop dramatique au fond concernant la Méditerranée, ou vous n'êtes pas du tout d'accord?
Oui, alors tout à fait, il ne faut pas dramatiser la situation. Sur certaines parties de notre côte, il y a forcément des situations inquiétantes là où il y a de l'urbanisation à outrance, beaucoup de pollution. On peut vraiment assister à des dégradations locales, mais globalement sur le littoral français par exemple, où il y a quand même beaucoup d'initiatives positives, on peut avoir quand même un espoir, notamment dans le parc des Calanques, où on constate en 10 ans quand même des améliorations dans un endroit hyper urbanisé.
Mais justement, Danielle Milon, la vice-présidente du parc national des Calanques, disait récemment « La Méditerranée, c'est la plus belle mer au monde, mais aussi l'une des plus polluées », Sandrine Ruiton.
Oui, alors tout à fait, la pollution est présente, on mesure, on parle beaucoup de plastique, mais le plastique, c'est un peu le haut de l'iceberg, c'est ce qui se voit, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Comme disait Alexandre Ménez, c'est vrai que souvent, on tire l'alarme sur ce qui se voit et sur ce qui mobilise le grand public, mais les pesticides, les éléments traces sont aussi très présents, et comme la Méditerranée est une mer semi-fermée, il y a relativement peu d'échanges avec l'Atlantique et avec d'autres mers, et du coup, la Méditerranée très exposée à ces impacts humains.
Alexandre Ménez, l'idée de votre livre, c'était justement de proposer une réévaluation des menaces qui pèsent réellement sur la vie marine, et de hiérarchiser un peu les problèmes.
Les problèmes.
Ouais.
Le premier concept, c'est de dire que lorsqu'on atteint le milieu marin, il y a deux cibles. D'une part la vie marine, bien entendu, mais également l'homme. Il y a des pollutions qui nous reviennent, les pollutions bactériennes, les hydrocarbures, les pesticides,
ouais.
Ça nous revient dessus. Et donc, pour une pollution, pour une atteinte au milieu marin, ça peut atteindre la cible homme au cœur et l'autre pas du tout, ou vice-versa. Et donc, ça, c'est la première chose à faire. Deuxièmement, il y a des concepts que j'ai mis en place, c'est les critères pour hiérarchiser. Il y en a deux. C'est très simple. C'est du bon sens. Le premier, c'est la réversibilité. La résilience, le temps qu'il faut pour que la nature revienne à l'état naturel une fois que la pollution s'arrête.
Ouais.
Et le deuxième critère, c'est tout simplement géographique. Comme a dit Madame Ruiton, ça peut être une baie, mais ça peut être également toute la Méditerranée. Donc il faut associer ces deux critères pour hiérarchiser toutes les atteintes au milieu marin.
Alors quand vous parlez de l'érosion de la biodiversité justement en Méditerranée, vous évoquez une zone tout à fait particulière qui est extrêmement sensible et précieuse, c'est cette zone littorale située entre 0 et 50 mètres. Pourquoi ?
Bon, d'abord, l'immensité des mers et des océans, c'est le milieu pélagique, le pélagos. Ce sont un ensemble d'organismes qui n'ont aucun rapport avec le fond.
Oui.
Et c'est assez homogène. Ensuite, il y a le milieu benthique, le benthos, qui est sur le littoral, collé au littoral, là où il y a la lumière. Ce sont les espèces qui vivent sur le fond, enfouies, fixées, ou qui nagent sur le fond.
Oui.
Et en Méditerranée, plus particulièrement, cet espace-là éclairé de petits fonds est extrêmement riche, parce que c'est là où la lumière pénètre, c'est là où se trouvent les algues, les plantes à fleurs, dont les posidonies, et c'est là où se trouve la biodiversité la plus importante. Et c'est là, au-dessus, que se trouve l'homme.
Ouais.
L'homme se développe au-dessus et amène toutes les pollutions qui réduisent, qui mettent en déclin certaines espèces dans ce milieu très restreint.
Camille, depuis Marseille.
Oui, Sandrine Ruiton, vous étiez hier matin encore justement en train de plonger dans la Méditerranée. Vous pouvez nous dire où et surtout nous décrire à quoi ça ressemble et si il y a quand même des choses qui sont visibles aussi bien qu'en mal.
Oui, alors hier en effet j'étais sur le terrain et donc j'étais dans le parc des Calanques. J'ai plongé à des endroits où alors il y a une nouvelle algue invasive que l'on a découvert depuis 2 ans à Marseille, qui s'appelle Regulopteryx ocamurae, qui nous préoccupe quand même pas mal en ce moment parce que c'est une algue donc envahissante qui à certains endroits colonise les roches peu profondes, quasiment à 100%, quoi, à 90%. Donc vous imaginez que cette nouvelle algue modifie totalement les écosystèmes rocheux. Et donc en ce moment, en fait, on est en train de suivre son expansion et également d'essayer d'étudier son effet sur la biodiversité. Donc pour ça, on fait des comptages. Hier, j'ai fait des comptages de poissons.
Il y en a.
Oui. Voilà, tout n'est pas négatif parce que en fait, même si cette algue n'était pas là auparavant, elle a des fonctions écologiques. Notamment, il y avait beaucoup de juvéniles de poissons.
Quelles espèces en ce moment ?
Ah ben alors en ce moment il y a beaucoup de sards, il y a beaucoup de chapons, il y a beaucoup, bon j'ai vu aussi un mérou, voilà il y en a. Mais si on compare les endroits où l'algue est présente et un endroit non envahi, voilà c'est tout la raison de nos études, c'est de voir si ça a un impact négatif ou positif. Alors là a priori c'est plutôt négatif et notamment on fait des prélèvements aussi à ces endroits et on va quantifier la quantité d'espèces introduites et la quantité des autres espèces autochtones pour voir s'il y a une concurrence qui s'établit. Et là en l'occurrence il n'y a pas photo. On a vraiment l'impression que tout ce qui est dessous brûle et complètement éliminé. Donc il y a une modification profonde des écosystèmes actuellement. Ça ne veut pas dire que c'est dramatique. Peut-être que dans 10 ans, en fait, elle va prendre sa place comme d'autres espèces introduites, envahissantes. Mais voilà, c'est un petit peu le sujet d'actualité.
Alexandre Ménès, on arrive à faire un inventaire justement de ces espèces envahissantes dans le milieu marin ?
Voilà, alors moi j'étais un peu le lanceur d'alerte de la colère pataxifolia, l'algue tueuse, qu'on appelait l'algue tueuse. Heureusement, elle s'est effondrée au bout de 20 ans, mais elle a fait très peur à tout le monde, aux pêcheurs, aux plongeurs, aux plaisanciers. Actuellement, on peut dire qu'il y a un millier d'espèces qui ont été introduites en Méditerranée. C'est énorme, puisque la biodiversité en espèces est d'environ 16 000, dont 12 000 que l'on voit à l'œil nu, à peu près, approximativement. Donc actuellement, il n'y a pas d'espèces qui ont disparu, il y en a très peu, mais par contre, il y en a 1 000 en plus. Et c'est les grands changements qui interviennent, c'est-à-dire que...
Donc ça bouleverse les équilibres.
Exactement, et pour l'instant, on ne sait pas très bien ce qui va disparaître à cause de tout cela, mais ça va changer, la Méditerranée va changer. Voilà, en gros, c'est ça.
Allez, parmi les problèmes numéro 1, c'est la construction sur la mer. On parle beaucoup d'artificialisation des sols sur Terre, mais alors là, c'est aussi un vrai problème. On ira justement à Monaco, tiens, pour illustrer ce douloureux sujet. Vous êtes l'auteur de ce livre « Protéger la biodiversité marine ». C'est le sujet de la Terre au carré avec les questions des auditeurs. franceinter.fr.
porte un visage couleur béton. Je porte le blouson que t'aimais bien sûrement. Je porte mes prisons, j'ai gardé espoir. Qu'ait plus tes fantômes au parloir. Tout ce que j'entends, c'est ton sourire abstrait. T'as laissé derrière toi mardi dernier. Cette vie, c'est pâle, c'est fade. Sans toi, je vaux pas mieux qu'un homme. Je vaux pas mieux que ça. Je veux pas mieux que toi. Pas juste un rodéo. Avec ce qu'il reste de nous. Tous mes idées. Oh, 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 oh. En plein rodé. Oh, 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 oh. Je parcours le monde sur mon deux temps. Les conséquences, moi je les verrai pas. J'ai l'impression de sortir d'un coma. Quand tes yeux me flinguent d'un verre au pas. Tout ce que j'attends, c'est ton fou rire abstrait. J't'ai perdu, je savais plus combien j'étais. Cette vie, c'est pâle, c'est fade. Sans toi, je vaux pas mieux qu'un homme. Je vaux pas mieux que ça. Je veux pas mieux que toi.
Rodéo, c'était Hervé.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Des images pour un problème. Multiplier l'espace vital des Monégasques et de leurs nombreux amis, alors que la montagne au nord et la mer au sud limitent la zone urbaine. Construire en hauteur, bien sûr, là est une partie de la solution. Mais on peut aussi gagner sur la Méditerranée. Et c'est à quoi s'emploient depuis plusieurs mois les entreprises de travaux publics chargé d'aménager une nouvelle station balnéaire à l'est du Rocher. La plage du Larvotto offrira des installations ultramodernes, on s'en doute, avec des salles de shopping, de restaurants et des bassins de plaisance. Mais déjà, des milliers de mètres cubes de sable ont été étalés en bordure de mer, et pendant que les ouvriers maçons mettent la dernière main aux constructions, les baigneurs ont pris d'assaut ce qui sera demain la plage du Larvotto. Un fleuron de plus à la couronne d'or et d'azur de cette région méditerranéenne.
Voilà, ça c'était en 1968, Alexandre Ménez, Monaco allait justement grignoter l'espace maritime pour s'agrandir. Et bah, depuis, on sait ce que ça a donné. Et vous, vous dites, bah, c'est le fléau numéro un finalement. Hein.
Voilà, dans mon livre, j'explique au niveau hiérarchique que l'aménagement, les constructions gagnées sur la mer, je dis bien gagnées sur la mer, c'est le sujet, c'est pas ce qui est sur terre, gagnées sur la mer, c'est vraiment quelque chose de dramatique. Pourquoi ? Parce que d'une part, l'espace vital très riche en Méditerranée, c'est entre 0 et 10 mètres, 0 et 20 mètres. Là, c'est le plus riche, vraiment le plus riche. Et d'autre part, ça descend très vite. Et donc la surface de cet espace très riche est très exigu. Et lorsqu'on construit dessus, c'est une amputation. Tout est mort, tout a disparu. Alors on peut dire, oui, ça revient devant, à côté, à droite, c'est un faux raisonnement, parce qu'il y a la vie autour déjà. Ouais. Et donc si on cumule tout ce qui est gagné sur la mer, on a des chiffres impressionnants. Plus de 5200 hectares ont été gagnés devant les côtes françaises de la Méditerranée. Ouais. 5200 hectares et plus de 20% du littoral est artificiel, des côtes françaises de la Méditerranée, Corse comprise, îles comprises. Mmh. Avec des chiffres très importants dans la région sud, où 20% des petits fonds entre 0 et 10 mètres ont été amputés. Ouais. Et Monaco, c'est plus de 90%. Ouais. Donc c'est une amputation de la vie la plus riche en Méditerranée qui ne reviendra jamais.
Mais comment on l'explique alors que on a un prince monégasque qui se veut très écolo, permettre justement l'artificialisation de son milieu maritime comme ça?
Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais je fais qu'un constat, factuel qu'on peut mesurer avec des chiffres très précis. À force de construire sur la mer, on a détruit plus de 90% des petits fonds de la ville la plus riche à Monaco. 90% ont été amputés. C'est comme si on détruisait le bois de Vincennes ou de Boulogne, 90% pour construire des immeubles et des villas.
Sandrine Ruiton, vous souhaitez réagir aussi, depuis Marseille?
Oui, alors en effet, Monaco, c'est un exemple flagrant de l'urbanisation. Je pense que les raisons, c'est clair que les raisons économiques qu'il y a derrière permettent de l'expliquer. Mais je pense que tous les scientifiques, et Alex en premier, sera d'accord avec moi pour dire que la nature n'a pas de prix. C'est surtout ça qu'il faut avoir à l'esprit. Mmh. Et que de toute façon, un jour ou l'autre, on le payera. Et que cette nature, cette biodiversité a une valeur intrinsèque, éthique, écologique, qui ne pourra jamais être restaurée à l'identique. Donc la restauration n'existe pas. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit, et que toute amputation à l'heure actuelle sur le milieu marin, c'est quelque chose qui est perdu pour nous, pour les générations futures. Voilà, donc c'est vraiment... ouais. C'est ça qui est important.
Et Alexandre Ménès, vous dites que cette atteinte physique au milieu marin est finalement très peu étudiée, pas assez étudiée, au fond. Hein.
Oui. D'abord, au niveau académique, c'est pas très intéressant. C'était vivant, c'est mort, point, c'est tout. Oui, donc... pas de statistiques, pas de choses très complexes à avoir. Hein. Mm-hmm. La moindre petite pollution peut être étudiée à l'infini dans des grandes revues scientifiques.
Ouais.
Et ensuite, les ONG ou les grandes associations n'osent pas attaquer un promoteur, un politique, un maire. C'est un peu difficile.
Voir un prince.
Voilà,
voir un prince. Encore moins, Alexandre Ménès, pardon, encore moins quand c'est la Fondation Albert de Monaco qui finance par ailleurs et en parallèle beaucoup de programmes scientifiques, non?
Oui, le prince de Monaco finance, bon, mais c'est bien ce qu'il fait là, hein, mais il faut également qu'il se rende compte que devant son propre paillasson, il détruit tout. Et plus de 90% des petits fonds ont été détruits. Voilà, et ça c'est fondamental. Et devant l'Arvoto, on a créé une réserve. C'est moi qui ai incité le prince Rainier à la créer à la suite de la construction du terre-plein de Fontvieille.
Ouais.
Donc je lui ai écrit, il voulait le faire devant le musée. Je dis non, c'est pas terrible, il faut le faire au l'Arvoto. Et donc il y a une petite réserve, mais cette réserve c'est une réserve citadine entre des immenses terre-pleins.
Ouais, donc la bétonisation du milieu marin, ça c'est un vrai problème qui est pour vous vraiment en tête de liste de cette hiérarchie que vous posez. Hein.
Voilà, dans la hiérarchie à court terme, actuelle, ouais. Il y a la surpêche et la bétonisation. Ouais. Il y a moyen terme, c'est le changement global et les introductions d'espèces.
Sandrine Ruiton, depuis Marseille, vous souhaitez réagir?
Oui, voilà. Alors Monaco, c'est vrai que devant chez eux, c'est pas l'exemple à suivre, mais c'est vrai que il y a beaucoup de fonds qui sont mis à disposition de la recherche et des ONG. Il faut savoir que Monaco finance quand même des aires marines protégées tout à travers toute la Méditerranée, à travers des fonds qui vont directement aux ONG, aux associations locales. Et ça, c'est vrai que c'est des moyens qui sont mis à disposition et qui permettent quand même des effets locaux significatifs, parce que les aires marines protégées, pourquoi ça marche plus ou moins bien? Parce que souvent, il n'y a pas les moyens. Donc, c'est vrai que, voilà, faut
mais c'est,
faut
c'est paradoxal. Alors, vous avez des fonds, oui. Vous, à votre institut?
Non, pas du tout.
Mais c'est paradoxal, ce que disait Alexandre Ménès. C'est-à-dire qu'il finance des choses tout en faisant des catastrophes chez eux, quoi.
C'est totalement paradoxal, en effet, mais... voilà, peut-être qu'ils se donnent bonne conscience en faisant à l'extérieur et en sacrifiant
Alexandre
leur littoral.
Ménèze. Alexandre Ménès.
Bon, sur les réserves marines ou les aires marines protégées, dans mon livre, j'explique qu'il faudrait faire un grand ménage. Il y a 7 statuts différents,
oui, c'est ça.
Totalement en France.
Il faut
7 statuts
uniformiser, hein,
parc national,
c'est le bordel, quoi.
C'est le bordel, exactement, ouais. Exactement. Et la plupart de ces aires marines protégées ne protègent rien. C'est simplement co-géré, c'est une gestion des différentes personnes qui vont dans ce milieu-là. Mmh. Ça ne protège rien du tout. Les seules réserves qui protègent réellement quelque chose, ce sont des réserves intégrales.
C'est ce que
toute forme de pêche est interdite.
Vous militez vraiment là-dessus. Vous dites que c'est la seule réponse au fond
exactement.
Au maintien de l'équilibre de la biodiversité marine.
Ça fait un effet réserve où la vie revient, pas seulement que les poissons, mais tout ce qui va autour et toutes les chaînes alimentaires se reconstituent. Mmh. Et donc il est fondamental que c'est une protection forte qui... nécessite toute interdiction de pêche avec une surveillance très forte. Et actuellement, 0,6% des côtes françaises, des eaux territoriales, sont en réserve intégrale. C'est ridicule. Et on construit des zones Natura 2000, il y en a 44 au large, un peu de partout. Elles ne protègent rien. C'est une co-gestion du milieu marin.
Sandrine Ruiton.
Oui, alors en effet, hein, la préservation via des aires marines protégées, c'est certainement une clé, mais pour que ces aires marines protégées soient efficaces, il faut qu'elles aient les moyens. À l'heure actuelle, très peu. Dans le parc des Calanques, par exemple, là où il y a une protection efficace, eh ben on constate en moins de 10 ans une augmentation des biomasses de poissons. On en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais...
Ouais.
Mais voilà, cette protection est essentielle.
Alexandre Ménez, une question de Jean-Louis sur l'application France Inter. Il aimerait savoir si les algues invasives dont on parlait tout à l'heure n'étaient pas simplement dues au réchauffement climatique plus qu'à la pollution.
Ah, ni l'un ni l'autre. Non, ce sont des introductions par l'homme d'espèces qui vivent ailleurs. Et donc c'est tout un chapitre de mon livre qui explique qu'en fait, dans le monde, il y a eu de l'évolution de toutes les espèces marines, et on trouve une faune, une flore tropicale du Pacifique, une faune, une flore tropicale de l'Atlantique, pareil pour les eaux froides, et on peut tout mélanger si on veut. Et à la fin, ce sont les espèces les plus solides, les plus vivaces, qui produisent le mieux, qui on trouvera partout. On appelle ça une involution. C'est contre les barrières géographiques, et on involue, c'est-à-dire que le nombre d'espèces mondiales va se réduire au profit des espèces les plus résistantes dans toutes les mers.
Et un mot juste sur Taxifolia, cette algue qui a beaucoup inquiété pendant 20 ans en Méditerranée, mais comment elle a disparu alors? C'était quoi la solution pour s'en débarrasser?
Alors, il n'y a pas de solution, hein. Ça s'est fait tout seul dans les années 2004, elle s'est effondrée partout.
Tout seul?
Partout, oui, tout seul, partout en Méditerranée.
Mais avec des raisons particulières ou pas?
Alors, pour l'instant, on ne le sait pas, et quand ça s'améliore, on n'étudie pas bien.
C'est quoi les hypothèses?
Il n'y a que trois hypothèses. La première, c'est une dégénérescence génétique de l'espèce, puisque c'était un clone mâle qui se reproduisait que par bouturage, si vous voulez. Hein. La deuxième hypothèse, ce sont des bactéries qui vivaient dans les siphons de l'algue qui ont dégénéré. Et la troisième hypothèse, c'est peut-être des cycles qui dus à des taches solaires ou des rayonnements qui font que elle explose pendant certaines périodes, comme sa cousine, la Caulerpa prolifera, qui existe en Méditerranée, qui prolifère à certaines époques reculées.
Allez, on reste dans les eaux de la Méditerranée puisqu'il est 14h31.
France Inter. La Terre au carré.
Avec vous, Camille Cronier, depuis donc Marseille, on passe au vert, au bleu même, hein, puisque vous nous emmenez dans les eaux du Parc National des Calanques.
Ah oui, il y a des chroniques plus difficiles que d'autres à faire. J'ai donc passé une journée entière, un dimanche en plus, sur un bateau pour voguer sur la mer turquoise et en plein soleil. Franchement, qu'est-ce qu'on ferait pas? Non, rien à voir avec la croisière s'amuse. Et tant mieux. Point de paquebot dans cette zone protégée. Le bateau, là, c'est le Falco, comme Albert, le plongeur. Une sorte de gros zodiaque. Alors, je vous vois déjà venir en entendant le moteur vrombir. Donc, j'ai posé la question comme ça, on n'en parle plus.
Bon, par contre, c'est du fioul, le bateau.
Oui.
Ah oui, par contre, on n'est pas à la voile. Mais vu le territoire qu'on a prospecté, toutes les missions qu'on a menées, on ne pourrait pas se permettre d'être à la rame ou à la voile. Donc oui, on utilise du fioul.
Alors c'est Lorraine Anselme qui parle et qui pilote. Il y a aussi avec nous Mathieu Binquet et Patrice Donofrio. Ils font partie de la quinzaine de gardes du Parc National des Calanques qui patrouillent toute l'année en mer, mais aussi sur terre, aidés l'été par des saisonniers, pour faire de la prévention et de la sensibilisation sur les risques liés à l'environnement et les bons comportements adoptés. La réglementation du parc évolue d'ailleurs régulièrement pour s'adapter. Et là aussi pour relever les infractions. Ils ont un écusson police, que ce soit des infractions au sujet de la pêche dans les zones protégées, du braconnage, la vitesse, les jet skis ou les bouées tractées interdits dans le cœur du parc, ou le fait de jeter l'ancre là où ce n'est pas autorisé, sur des zones d'herbiers de Posidonie. Allez hop, on y retourne.
On va voir la zone...
Donc
là, on va aller direction l'île de Riou. Récemment, il y a eu la mise en place d'un nouveau plan de balisage sur cette partie-là de l'île pour préserver notamment les herbiers de Posidonie.
Il doit y avoir 7-8 bateaux au moins là. Ah ouais, il y en a plein qui sont pas bons là.
Oui, il y en a plein qui sont pas bons là.
On commence par qui? Le voilier.
Bonjour, police de l'environnement. Vous êtes dans une zone interdite au mouillage. Oui, c'est une protection qui a été mise en place pour préserver l'ensemble des herbiers de Posidonie qui sont dans la zone.
D'accord.
Voilà, donc je vais vous demander de relever votre ancre.
Vous connaissez l'herbier de Posidonie?
De nom, oui, bien sûr. Il ne faut pas mouiller justement parce que je crois que les ancres arrachent les herbiers, c'est ça?
C'est ça, vous avez tout compris.
Voilà.
Donc ils sont tous en train d'allumer la Posidonie là.
En gros, c'est ça.
Et Patrice, du coup, pourquoi les bateaux ne doivent pas jeter l'ancre là où il y a des herbiers, en fait ?
Ces herbiers poussent très lentement et les ancres de bateaux, une action mécanique, vont déraciner les souches, les rhizomes de ces herbiers de Posidonie. Donc ça les endommage et ils mettent très longtemps à se reconstituer.
Il y a encore des traces de la Seconde Guerre mondiale par exemple ?
C'est ça, par exemple sur la calanque de Sormiou, on peut voir des traces de bombes qui ont explosé en mer sur des petits fonds sur lesquels l'herbier n'a toujours pas repoussé. Donc on voit des traces circulaires claires, plus claires, là où l'herbier n'a pas repoussé.
Il y en a tout en dessous, là.
Si on regarde bien, tu vois bien les différences de couleurs des fonds marins. Donc, les taches claires qui sont vraiment les zones de sable.
Donc, l'eau turquoise.
L'eau turquoise, voilà. Et les taches sombres qui sont les herbiers de Posidonie.
Mais donc là, ça veut dire que si je dois jeter l'ancre, vaut mieux que je jette là où il y a le sable.
Oui, et en plus, contrairement à ce que peut croire la majorité des gens, l'ancre va mieux tenir dans la zone de sable que dans la zone d'herbier où l'ancre va avoir tendance à glisser.
Il est quand même cool, votre boulot, hein.
C'est ce que tout le monde dit.
Oui. Ça, c'est la partie sympa.
Ouais.
De quoi ?
Le cadre est magnifique. Après, là, les journées, c'est 8 heures en mer quasiment, à aller voir les gens et à passer un peu notre journée, à dire aux gens, faut pas faire ci, faut pas faire ça.
C'est sûr.
Et il y en a des infractions dans tout le cœur du parc, marin et terrestre, 52 000 hectares au total.
Grosso modo, on est sur plus de 500 infractions constatées par les inspecteurs de l'environnement. Sur l'année. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils peuvent être à l'origine.
En fait, les gens n'ont pas conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir.
Ouais, ouais.
En fait, il y a aussi le problème de la méconnaissance des réglementations.
Exemple ?
Là, on intervient sur un jet ski qui est une activité qui est interdite au cœur de parc depuis la création du parc. Ça fait du bruit que ça occasionne notamment.
Bonjour monsieur, la police de l'environnement.
Vous savez où vous êtes monsieur là ?
Arrange. C'est là où Macron est venu.
Ouais. Ça, ben oui, mais il faut se renseigner monsieur, il faut se renseigner.
Alors, c'est pas fini, hein. Voici un gros excès de vitesse.
Bonjour, c'est la police, on va faire un contrôle. Au lieu de 5 nœuds dans la bande des 300, vous étiez à 25 nœuds au moins.
24 à peu près.
Voilà, vu la vitesse, et vous êtes passé là à moins de 50 mètres du bord.
D'accord.
Sur la zone de cap, c'est hyper dangereux. Derrière, il y a un paddle, une personne dans l'eau. Vous l'évitez pas, vous le coupez en deux.
Voilà, parce que en plus de l'environnement, la pollution sonore, il y a la sécurité des personnes dans les calanques, bateaux, baigneurs, paddles, plongeurs, faune et flore. Tout le monde doit cohabiter dans le respect.
Ce qu'on veut éviter, c'est que les gens viennent consommer.
Ouais.
Ils viennent juste consommer l'espace, ils viennent à la plage, ils viennent se baigner. On est sur un territoire exceptionnel. Si on veut aller à la plage, il y a plein d'autres endroits où on peut aller se baigner. Le but, c'est que les gens aussi aient une expérience et en conscience.
Et heureusement, la plupart des personnes croisées étaient compréhensives, coopératives et bien disciplinées.
Là, a priori, ils sont tous bons, puisqu'ils sont tous entre la bouée et la côte. Donc, ils sont sur les zones autorisées au mouillage.
Au cas où, pendant l'apéro, il ne faut pas donner à manger aux poissons. Hein.
On n'a pas donné à
parce que je vois qu'il y a beaucoup de poissons. Souvent, ils viennent lorsqu'on met un morceau de chips dans l'eau. Donc, pas de nourrissage, s'il vous plaît.
Merci.
C'est bien, bons élèves.
Oui.
Et il y en a même limite faillot qui viennent s'informer.
On a même pas un reportage en plus.
Vous prenez des renseignements ?
Comme ça, vous pourriez dire qu'il y a aussi des gens bien qui se renseignent avant de faire les conneries.
Pour l'encre en particulier, là, vous demandiez ?
Notamment ça, oui, on y est très sensible parce qu'on sait que pour les herbes, c'est très, très néfaste. Donc de savoir où on peut, où on ne peut pas.
Très bien,
voilà.
Je vous félicite, un bon point.
Vous avez écouté, merci. On a gagné un truc.
Bah oui, un passage sur France Inter dans la Terre au Carré, c'est quand même pas mal, non ?
Et c'est Camille Passauvert depuis Marseille que vous pouvez réécouter sur franceinter.fr.
Sandrine Ruiton, vous étiez vendredi dans les Calanques avec le président Emmanuel Macron qui a fait une petite sortie vendredi matin. Et il annonçait après derrière un sommet pour fin de l'année, début d'année prochaine, One Ocean. Qu'est-ce que vous attendez, vous les scientifiques spécialistes de ces questions-là, d'un énième sommet ? Il y avait One Planet Summit en janvier, là ce sera One Ocean. Qu'est-ce que vous en attendez ?
Alors, beaucoup d'annonces. C'est vrai que bon, le président Macron est quand même à l'écoute. On a eu l'occasion de lui présenter les résultats obtenus grâce à la gestion du parc des Calanques. Il a bien compris aussi les enjeux de conservation de l'herbier de Posidonie. Il a même cité la Posidonie comme puits de carbone dans son discours d'introduction au Congrès mondial. Voilà, donc beaucoup d'annonces politiques, One Ocean Summit. Alors, bien entendu, ces grandes décisions, il faut que tout le monde soit autour de la table, il faut que tous les pays concernés discutent, mais on sait que, de toute façon, à l'instar des sommets de la Terre, il faut des années, des décennies pour que des choses concrètes arrivent et vraiment qu'on en voit les résultats. Donc je pense pas que les résultats arrivent dès l'année prochaine, voilà, mais bon, c'est plutôt positif.
Alexandre Ménège, vous voyez lever les yeux au ciel, encore un énième congrès justement.
Oui, oui, mais d'abord, je voudrais quand même parler des Posidonies, c'est une plante à fleurs, ouais. Il faut le souligner.
Oui, oui, c'est vrai.
C'est une plante à fleurs qui est un peu l'équivalent des coraux, des récifs coralliens dans le Pacifique, ouais. Ou dans les grands océans, ou des mangroves aussi.
Donc, mais c'est vraiment un puits de carbone ou pas pour vous ?
C'est un puits de carbone, mais à très long terme, puisque la plante pousse très très lentement, 1 centimètre par an en verticalement, quelques centimètres, 2-3 centimètres horizontalement. Alors, un recul de 100 mètres de l'herbier de Posidonie, figurez-vous, 100 mètres. Pour que ça revienne, si toutes les pollutions sont annulées, il faut donc 30 centimètres en 10 ans, 3 mètres en 1 siècle, 30 mètres en 10 siècles, et pour atteindre les 100 mètres, il faut plus de 30 siècles pour que ça revienne. C'est pour cette raison que c'est quelque chose de qu'il faut protéger absolument, et parce que ça contient la biodiversité la plus riche de Méditerranée.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre cette discussion avec vous depuis Paris, et avec Sandrine Ruiton à Marseille au Congrès mondial de la nature.
My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold.
The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old and we, and I suddenly turn and see your fabulous face.
I get no kick from champagne, mere alcohol.
For cocaine, I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me.
I get a kick, though it's clear to see you obviously don't adore me.
I get no kick in a plane flying too high with some gal in the sky. Do. Yet I get a kick out of you. I get a kick, though it's clear to see you obviously do not adore me.
I get no kick in a plane
flying too high with some gal in the sky. It's my idea of nothing to do. Yet I get a kick.
You give
gets out of you.
Lady Gaga et Tony Bennett.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Pour réaliser l'urbanisation en mer du territoire de la Principauté, Bouygues Travaux Publics a mis au point des méthodes constructives inédites visant à minimiser l'impact du chantier sur l'environnement. Déplacement de 143 grandes nacres vers la réserve marine du Larvoto. Éradication de la colère. Algue verte invasive appelée plus communément taxifolia. Transplantation de 518 mètres carrés d'herbier de Posidonie, espèce protégée.
Voilà, ça c'est une petite pub de Bouygues en 2019 avec le projet d'urbanisation donc de l'Anse du Portier à Monaco. Alexandre Ménez, ce qu'on entend là sur justement la protection de la biodiversité marine, en fait c'est totalement délétère ce qui a été fait.
Non, c'est la poudre aux yeux.
Ouais.
On ne parle pas de l'essentiel. 6 hectares détruits à jamais.
À jamais.
À jamais. Oui, c'est recouvert. C'était de la mer, c'était des biotopes où poussaient avant des Posidonies.
C'est devenu
détruit
du béton.
À jamais.
Ouais.
Détruit à jamais. Alors on parle des nacres, elles sont toutes mortes. Pas à cause des transplantations, parce qu'il y a le parasite, il a tout tué. Mmh. On parle des Posidonies, les transplantations, ça n'a pas bien marché. Et on a détruit plus de, disons, 5 hectares de biotopes de l'espèce avec ce terre-plein. Et ensuite, il y a eu beaucoup de... Donc c'est un peu de la poudre aux yeux.
Donc c'est du mensonge pur et dur.
Non, pas un mensonge, on cache la vérité. Ouais. La vérité, c'est qu'il y a 6 hectares de petits fonds détruits à jamais. Et à Monaco, plus de 90% des petits fonds entre 0 et 10 mètres ont été recouverts. Mmh. Donc, ont disparu pour toujours.
Mathias, sur franceinter.fr, nous dit Taxifolia, donc cette algue invasive, a régressé. Mais la Colerpa racemosa est bien implantée et c'est très préoccupant. Je l'ai encore observé en plongeant à La Ciotat en août. Et chez moi, à Cerbère, Sandrine Ruiton, est-ce que vous souhaitez réagir à cet auditeur?
Une autre Colerpa cylindracea, quoi qu'on appelait avant racemosa, oui, elle est présente partout. Alors, elle est plus discrète que Taxifolia, c'est pour ça qu'on en parle un peu moins.
Oui.
Mais elle est bien présente partout et elle a une reproduction sexuée. Donc là, bon, il faut même pas compter pouvoir la contrôler. Bon, elle paraît quand même moins impactante que Taxifolia. Mmh. Et voilà, oui, en effet, elle est encore très présente.
Michel sur Facebook, 1984, musée océanographique de Monaco, Taxifolia. Pas un mot de Cousteau, responsable du déversement des eaux usées des aquariums du musée. Merci pour lui, dit Michel. Et quant au calanque, pas un mot sur les boues rouges. Merci pour les industriels responsables. Qu'est-ce que vous répondez à Michel, Alexandre Ménez?
Bon, maintenant, la Taxifolia, on le sait, génétiquement, ça a été prouvé, ça vient des aquariums de Monaco. Bon, c'était Cousteau à l'époque qui dirigeait le musée, mais il a reconnu que c'était quand même un fléau. Mm-hmm. Ça, il faut quand même le reconnaître. Pour ce qui concerne les boues rouges déversées dans le parc national des Calanques, je regrette qu'ils aient construit une zone de protection intégrale à l'endroit où les boues se déversent. Et pour toute la Méditerranée, c'est la zone intégrale la plus large.
Ouais.
Donc si on enlève cette zone intégrale de tout le bilan, on n'est pas à 0,6%, on est à 0,4% de zones intégralement protégées en Méditerranée.
Mais pourtant, c'est ce que vous demandez, les zones intégrales de protection.
Oui, mais là, il faut que ça soit une zone naturelle.
D'accord.
Là, on peut pas dire que c'est très naturel.
Oui.
Et dans le parc des Calanques, il y a une autre zone de très forte protection, c'est devant les émissaires de Marseille.
Sandrine Ruiton.
Ce n'est pas naturel.
Oui, alors juste deux mots sur les boues rouges. Alors, il n'y a plus de boues rouges dans les calanques depuis pas mal d'années parce que l'industriel a dû réformer ses modes de production industrielle. Maintenant, c'est des eaux industrielles, donc c'est quand même des eaux polluées. Mais toutes les boues sont retenues à terre avec des filtres presse. Et depuis un peu plus d'un an maintenant, ces eaux qui sont déversées respectent les normes françaises et les normes européennes de rejet. Donc on peut dire qu'il y a eu un gros effort de l'industriel. Alors je prône pas du tout, bien sûr, ces rejets d'eau usée, mais n'empêche que les pressions aussi bien du parc des Calanques que de l'opinion publique a permis ces progrès industriels pour l'épuration de ces eaux industrielles. Et c'est grâce à ça qu'on a pu quand même améliorer ces rejets.
Mais alors, pardon, Sandrine Ruiton, moi je suis passée du coup dimanche pile devant la sortie de ce grand tunnel là qui déverse.
Ah, ça c'est les égouts de Marseille.
Ah, ça c'est les égouts de Marseille. Alors c'est encore autre chose parce que en plein cœur du parc national des Calanques, oui. Il y a cette espèce de gros tuyau, de grosse embouchure d'où viennent donc les, oui. les égouts de Marseille. Je me suis posé la question, comment c'est possible que les égouts de Marseille, où d'ailleurs il y a interdiction de se baigner, hein, les patrouilleurs me racontaient que parfois ils disent à des gens surtout sortez de l'eau, comment c'est possible en fait?
Alors les égouts de Marseille se rejettent ici depuis le siècle dernier et même voilà depuis le siècle dernier. La station d'épuration a été mise en place en 1987, donc c'est relativement récent. Depuis, il y a eu des progrès dans l'épuration, donc ces eaux, de toute façon, respectent les normes françaises de rejet. Mais de toute façon, c'est historique que l'émissaire se trouve là. Alors, bien sûr, on voudrait déplacer cet émissaire. Plusieurs solutions, c'est mettre le rejet au large. Mais au large, ça voudrait dire bon, déjà des travaux colossaux qui coûteraient très cher, mais ça serait déplacer la pollution. Il faut bien rejeter ces eaux épurées quelque part.
Alexandre voilà. Ménez, pour poursuivre
autre solution,
sur... Oui, pardon.
Voilà, autre solution, ça serait d'épurer totalement ces eaux. Mais alors, à ce moment-là, il faudrait que les Marseillais soient d'accord de payer 10 euros le mètre cube d'eau. Ça, l'opinion publique est pas encore prête.
Alexandre Ménez, pour compléter là-dessus.
Oui, non, mais Sandrine Rutter a raison, hein, mais il n'empêche que dans les eaux du parc national des Calanques, il y a deux endroits qui sont pas très propres et qui ont été mis en réserve intégrale. Et c'est pas des zones vraiment naturelles, hein, elles ont été quand même polluées pendant très longtemps. Mais je voudrais également dire qu'il n'y a pas que le parc national des Calanques. Tous les efforts que Sandrine Rutter a décrits, c'est le parc national de Porquerolles, ce sont les réserves naturelles de Scandola, des Lavezzi, des Bouches de Bonifacio, mais également de Cerber-Bagnul, c'est la Côte Bleue. Et les efforts là-bas entrepris pour protéger la biodiversité sont énormes et datent depuis parfois 40 ans, 50 ans.
Alors, les efforts payent, et c'est le cas par exemple pour une espèce bien connue, le thon, puisque après une période assez critique, eh bien, les populations reviennent. On écoute l'extrait de ce reportage de France 2 en mai dernier.
Le thon est de retour en Méditerranée. Le résultat d'une politique de préservation avec une baisse drastique des quotas. Car il y a 10 ans, l'espèce a failli disparaître à cause de la surpêche. Ces derniers temps, sur la Côte d'Azur, on en voit par centaines, en quête de nourriture.
Vous voyez ? 10 mètres, là ! Là, 10 mètres, 10 mètres !
Dès qu'ils jaillissent de l'eau, les bancs de thon se retrouvent cernés par les bateaux. Chaque week-end, ces amateurs de pêche sportive le traquent dans les eaux monégasques.
On a des populations de thon qui sont là toute l'année, avec des animaux qui font 1m50, 1m60, 2m, 2m20. Et on se dit à chaque fois qu'on le voit sortir comme une torpille, on se dit « waouh, c'est incroyable !»
Chercheurs comme pêcheurs observent le même phénomène, des bancs de thon de plus en plus nombreux.
Oui, mais attention. Hein. Donc on a fait des erreurs dans le passé, on a l'impression qu'il n'y a plus de thon, mais on se dit « attention hein. !» Pour l'instant, il y a encore beaucoup de petits thons, il faut attendre que le stock soit vraiment consolidé.
Alors Alexandre Ménès, sur les thons, là, on a de bons résultats quand même. Hein.
Oui, ça s'appelle donc la résilience. Si on met en place des quotas, des jauges sur la pêche de certaines espèces bien ciblées, on peut renverser la situation. C'est pas le cas pour la morue. Hein, la morue, on a interdit la pêche à la morue vers Saint-Pierre et Miquelon, etc. Elles sont pas encore revenues comme avant. Hein. Donc c'est pas toujours gagné. Mmh. Mais la meilleure solution, c'est de mettre en place des réserves intégrales. Ouais. Ça, il n'y a pas photo, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour que la vie revienne et se renature entièrement, pas uniquement ce que l'on pêche. Toutes les autres échelles de la chaîne alimentaire.
Camille, depuis Marseille.
Oui, moi je voudrais savoir, en fait, question un petit peu... simple, mais quand on boit la tasse dans la Méditerranée, qu'est-ce qu'on avale, en fait, Sandrine Rutter?
Alors, vous avalez bien sûr de l'eau salée, mais en fait, dans quelques millilitres d'eau de mer, il y a plus d'un million d'organismes. Ça va du virus, en passant par la bactérie, jusqu'aux cellules de phytoplancton, donc de plancton végétal et du plancton animal. Donc, en fait, vous avalez énormément de choses. Bah, la plupart du temps, quand l'eau est propre, c'est pas nocif et vous pouvez y aller. Mais attention, où vous buvez la tasse, comme vous disiez tout à l'heure, vers l'émissaire de Marseille, il vaut mieux éviter de boire la tasse.
Benjamin nous pose une question. Est-ce que les herbiers de Posidonie jouent le même rôle de nurserie et d'écosystème riche que les herbiers de Zoster que l'on retrouve ailleurs, en Bretagne par exemple, Alexandre?
Oui, bien entendu. Non, mais tous les herbiers de plantes à fleurs, il y a environ une soixantaine de plantes à fleurs dans le monde, ça constitue des forêts ou des prairies sous-marines.
Ouais.
Et ça retient, bien entendu, ce sont des nurseries et ça sert de nourriture et d'abri à de multiples animaux et d'autres végétaux aussi.
Sandrine Rutter.
Voilà, juste pour compléter, quand on étudie un écosystème comme l'herbier de Posidonie, il ne faut pas se limiter à la santé de la plante. Il faut aussi considérer tous les compartiments fonctionnels de l'écosystème, des invertébrés, les poissons, et bien sûr la Posidonie elle-même. Et donc, c'est pour ça que les nouvelles méthodes de réseau de surveillance vraiment s'appuient sur cette approche écosystémique où on va tout considérer.
Mathieu nous dit la solution pour la protection des zones maritimes sensibles, c'est de multiplier les mouillages sur corps mort pour éviter aux plaisanciers de jeter l'ancre avec paiement d'un droit, comme c'est pratiqué aux Seychelles ou dans d'autres pays pour protéger le corail. Les corps morts, qu'est-ce que c'est, Alexandre Ménez ?
Bon, moi, je suis pas trop non plus un partisan de ces corps morts. Ce sont des gros blocs de béton qu'on jette un peu partout, avec des chaînes qui tournent autour et qui détruisent tout.
Ouais.
Moi, je pense que l'herbier de Posidonie ne mérite pas de recevoir ses corps morts. Le gros problème en Méditerranée, c'est qu'on a construit de multiples ports de plaisance, en Italie aussi. Tout le monde vient dans les zones de mouillage agréables, protégées du vent.
Ouais.
Et on n'a pas multiplié les zones de mouillage, qu'on a multiplié les ports. Et donc là, il faut une jauge dans ces zones de mouillage qui doit limiter absolument les unités, et surtout les grosses unités de bateaux.
Sandrine Ruiton, pour compléter.
Voilà, encore mieux que les corps morts, maintenant on utilise des mouillages écologiques, c'est-à-dire que ce sont des grosses vis qui sont vissées dans le sédiment, ou alors des plaques fixées à la roche, si c'est de la roche. Donc c'est écologique, c'est mieux que les corps morts. Et puis, comme le disait Alexandre Ménez, un des principes quand même importants, c'est que ces corps morts ou ces mouillages écologiques sont complètement réversibles. Hein. Donc en fait, c'est des bons moyens de gestion quand même pour accueillir les plaisanciers, pour éviter qu'ils jettent l'eau. Il vaut mieux qu'il y ait quand même des bouées qui les accueillent dans les zones de forte fréquentation.
Allez, pour terminer ce message de Guy, je vous entends. Je ne suis pas un spécialiste, juste un simple baigneur. Mais pourtant, vivant à Martigues depuis plus de 30 ans, j'ai noté l'appauvrissement de la vie en bord de mer. Rares oursins, alors qu'il fallait y faire attention auparavant. Quasiment plus un poulpe n'est remonté par les chasseurs sous-marins de moins en moins nombreux. Quasi plus un poisson dépassant 10 cm de long. Et j'ai passé 15 jours en Adriatique cet été où les fonds marins et la faune étaient aussi pauvres.
Non, c'est exact. Ce sont les petits fonds qui sont les plus impactés par toutes les formes de pêche, essentiellement. Et c'est justement pour cette raison qu'il faut créer un chapelet de réserves intégrales tout le long de la Méditerranée. C'est fondamental, des vraies réserves.
Ouais. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Alexandre Ménez. Je renvoie sur ce livre qui paraît, ça s'appelle « Protéger la biodiversité marine ». C'est chez Odile Jacob avec vos solutions, vous, pour justement la vie marine. Et puis Sandrine Ruiton, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis le Congrès mondial de la nature. À demain, Camille.
Oui, à demain. Moi, je reste à Marseille, mais je ne vais pas plonger, malheureusement.
À demain.
Pur, que dit la nature ? Épisode 27.
Et pour terminer, comme tous les mercredis dorénavant, notre partenariat avec le vodcast et podcast de France Télévisions, ça s'appelle Pure. C'est une expérience sonore inédite d'immersion dans un milieu de la planète que vous allez pouvoir d'ailleurs reconnaître, en tout cas deviner l'origine et le contexte. Donc c'est parti, prenez le temps d'ouvrir vos oreilles. La scène que vous allez écouter a été enregistrée par l'audio-naturaliste Fernand de Roussen. C'est cadeau! Voilà, est-ce que vous avez une idée de quoi il s'agit ? Eh bien, pour avoir la réponse, vous pourrez aller jusqu'au bout de l'expérience sonore pure que dit la nature, podcast et vodcast à découvrir sur France.tv en partenariat avec La Terre au Carré. Le lien est bien sûr disponible sur la page de l'émission.